Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je commence par m'excuser de vous donner si tard le sermon d'aujourd'hui. C'est que, au retour des États-Unis pour le sacre de Monseigneur Zenderas, j'ai aussitôt assuré les ministères et puis toute cette semaine donné une retraite sur la consécration à la Très Sainte Vierge. Nous étions un peu plus d'une demi-douzaine et j'estime que ces retraites sont très importantes pour vous assurer dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, dans la crise actuelle, vous apprendre à mener vous-même votre vie chrétienne, ce qui est très important puisque vous êtes peut-être un peu plus livré à vous-même que vous ne l'auriez été autrefois. Donc je renouvellerai cette retraite au début du mois d'août et j'espère que vous serez nombreux à en profiter. C'est vraiment des retraites qui nous permettent de mener notre vie chrétienne par nous-mêmes et qui font, on pourrait dire, vraiment des adultes dans la vie chrétienne. L'évangile d'aujourd'hui, l'épître d'aujourd'hui de Saint Jacques nous avertit. Elle est bien faite pour la situation présente, mais je dirais ça, je crois, tous les dimanches, car l'Église Bonne Mère a su trouver ce qui convient parfaitement pour ses fidèles. Alors, mes très chers, dit Saint Jacques, réalisez la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous tromper. Si quelqu'un écoute la parole et qu'il ne la met pas en pratique, alors il est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et qu'il l'a oublié aussitôt qu'il s'en détourne. Alors, et Saint Jacques continue, mais celui qui agit dans la loi de la parfaite liberté et qui demeure en état, n'est pas un auditeur oublieux de la loi, mais il la réalise. Alors celui-ci sera bien heureux. Nous remarquerons deux choses dans cette épître. La première, que il faut réaliser la parole, c'est-à-dire accomplir l'évangile. Il faut vivre selon la révélation que nous avons eue de la Sainte Trinité. Il faut vivre comme des chrétiens, c'est-à-dire dont notre vie est au ciel et non pas ici-bas. Et la deuxième chose à retenir, c'est la loi de liberté. Saint Jacques parle de liberté. À la fin de l'épître, il dit qu'il faut réfréner sa langue. C'est une application pratique parmi beaucoup d'autres. Ce n'est pas cela que je vais retenir aujourd'hui. De toutes parts, on me demande mon avis sur les récents événements de la Fraternité Saint-Pie-X. Et nous avons là typiquement ce que Saint Jacques demande de ne pas faire. Les doyens, ce n'est pas rien des doyens, ce sont des prêtres censés être des exemples et des guides pour leurs confrères, des gens en qui le supérieur de district a confiance. Des doyens ont écrit une lettre suite à l'intervention de Rome. Donc je vous rappelle les événements. Rome qui petit à petit se met la fraternité Saint-Pédis dans la poche, vient d'écrire une lettre dans laquelle elle demande aux évêques des lieux de déléguer des prêtres diocésains pour recevoir les consentements des mariages, le consentement des époux pour les mariages dans les chapelles de la fraternité Saint-Pédis, en laissant ensuite libre le prêtre de la fraternité de célébrer la messe comme il l'entend. Si le prêtre diocésain n'est pas disponible, alors l'évêque donnera la délégation pour le mariage directement au prêtre de la fraternité Saint-Pédis. Ce document romain dit qu'il veut répondre aux doutes qui, depuis le début, selon Rome, pas selon nous, n'est-ce pas, pèsent sur les mariages, à savoir que les mariages des traditionalistes seraient invalides par défaut de juridiction, ce qu'on appelle la juridiction, c'est-à-dire de délégation de pouvoir par l'évêque du lieu. Il est évident que cette lettre est scandaleuse à un double point. D'abord parce qu'elle jette un doute sur les mariages. Deuxièmement parce qu'elle est vraiment une mainmise des évêques des lieux sur les lieux de culte de la fraternité Saint-Pédis. Et troisièmement, une conséquence qui n'est pas nouvelle, mais malgré tout, une conséquence, c'est que du moment que ces mariages sont célébrés ou seraient célébrés par des prêtres diocésains, inscrits à la curie diocésaine, il est évident qu'ils seraient régis par la loi moderne, par le code moderniste, lequel code n'est rien d'autre qu'une couverture hypocrite des divorces pour lesquels on accorde avec une facilité lamentable une prétendue nullité, ce qui permet aux divorcés de se remarier sans trouble de conscience. En réalité, la fraternité avait déjà accepté le code moderniste et il y avait deux courants dans la fraternité, celui qui soumettait les mariages à la seule loi traditionnelle et donc à la commission Saint-Charles-Borromée voulue par Monseigneur Lefebvre, et dont je faisais partie quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, et l'autre courant qui voulait soumettre les mariages à la loi moderne et donc aux tribunaux modernes. Ce deuxième courant était celui du supérieur général qui manœuvrait pour contourner la commission Saint-Charles-Borromée et donc le courant traditionnel. Ces deux choses ont évidemment choqué les doyens et un bon nombre de prêtres du district. Je suis persuadé que les doyens, 7 sur 10 ont signé la lettre, représentent, à mon avis, 70 prêtres sur les 150 prêtres du district et peut-être même plus. Ils ont donc publié une lettre qui est un véritable camouflet contre Monseigneur Felet. L'abbé de la Roque a publié cette lettre dans son bulletin Le Chardonnais et il a fait figure de chef de file. L'abbé de la Roque a été outré lors des discussions romaines par l'hypocrisie de Rome, qui, sous couvert de discussion, essayait déjà de mettre pleinement la main sur la fraternité Saint-Pédis et de faire reconnaître le concile par ceux qui venaient discuter pour savoir justement, pour montrer à Rome la malice du concile. L'abbé de la Roque a été outré également, il me l'a dit quand j'étais encore dans la fraternité Saint-Pédis, outré par le comportement de Monseigneur Felet, qui est également un comportement hypocrite et surtout un comportement tyrannique qui ne tient aucun compte de la vie de ses confrères et qui va contre l'ensemble de la fraternité Saint-Pilis. Cette lettre venait un peu tard, mais après tout, on peut laisser à chacun le temps de se convertir. Malgré tout, elle était fort surprenante, car les doyens, pour protéger les fidèles, cette lettre est très bien rédigée et voit très bien l'ensemble des problèmes et les analyse bien. Cette lettre, pour protéger les fidèles, les doyens s'engageaient à ne rien changer à leur comportement jusqu'à maintenant. Et c'est là qu'est le problème, car nous avons, comme le dit Saint Jacques, des gens qui ont entendu la parole, mais ne la mettent pas en pratique. En effet, jusqu'à maintenant, les fidèles n'ont pas été tellement protégés. Il est clair que l'esprit du monde est entré dans la fraternité Saint-Pilis. Il est clair que la volonté de ralliement de Mgr Felet a commencé déjà à subvertir la fraternité Saint-Pilis. Il est clair, comme je vous l'ai dit, que le code moderne de droit canonique est déjà pris comme règle de la fraternité Saint-Pilis. Et donc, si l'on voulait vraiment protéger les fidèles, il fallait faire plus que de continuer, il fallait réformer, changer. Alors, les moyens étaient multiples, mais tous se résument à un seul, il faut rompre avec Mgr Felet. Il fallait soit le mettre à la porte, soit rompre avec lui. Mgr Felet s'est fâché tout rouge par l'intermédiaire de l'abbé Bouchacourt qui dans cette affaire-là a été vraiment un serviteur d'une servilité honteuse. Il a osé dire qu'il n'était pas informé de la démarche des doyens, alors qu'en réalité, il l'était depuis au moins 3 jours, et que les doyens lui avaient même demandé rendez-vous encore un peu plus tôt. Et puis, de toute façon, depuis que ces affaires sont connues dans la fraternité Saint-Pilis, les supérieurs savent bien quel est le courant de résistance. Il a immédiatement démis les doyens de leurs fonctions, tout en les laissant à leur poste de prieur, parce que sept d'un coup, ça ne se change pas comme cela. Mais il a surtout démis l'abbé de la Roque de ses fonctions et de doyen et de curé de Saint-Nicolas du Chardonnay, cette église qui est le phare de la tradition en France. L'abbé de la Roque s'était engagé à protéger les fidèles, et donc il était tout à fait normal qu'il refuse une mutation, parce que s'en aller, c'était vraiment abandonner ses propres fidèles au loup qui entre dans la bergerie. Ce n'est pas une sanction. À peine la mesure prise par l'abbé Bouchacourt, l'abbé de la Roque a hésité et finalement a accepté de partir. Il a disparu de la circulation et les fidèles ont voulu lui offrir ce qu'on appelle un pot d'amitié, c'est-à-dire ont voulu, lors de son départ, manifester leur amitié, l'abbé de la Roque n'était même pas présent. Il est évident qu'il laisse ainsi la place à ceux qui sont favorables à Mgr Felet, il laisse la place à ceux qui vont accepter les magouilles de Rome, autrement dit, il livre sans troupeau. Alors, je vous le disais, cette défection de l'abbé de la Roque était prévisible à la simple lecture de sa lettre. Que faut-il faire maintenant? J'aurais pu, mes bien chers frères, enregistrer ce sermon plutôt comme une conférence comme un sermon. Vous auriez eu droit à ce moment-là à un sermon pour aujourd'hui et puis une conférence supplémentaire. Si je choisis de vous faire ce sermon, qui va être un peu plus long que d'habitude, vous vous en doutez, c'est parce que il faut appliquer la demande de Saint Jacques dans l'épître d'aujourd'hui. Il ne sert à rien que je vous prêche si vous ne mettez pas en œuvre la prédication que j'ai reçue de l'Évangile. Il ne sert à rien que je vous prêche si vous ne mettez pas en œuvre l'héritage que Mgr Lefebvre nous a transmis. Et ces avertissements que je vous donne sont comme ceux de Mgr Lefebvre lors des grands sermons qu'il faisait pour les grandes cérémonies, notamment le 29 juin pour les ordinations. Il dénonçait les manœuvres de Rome et il donnait des consignes aux fidèles. C'est grâce à cela que la tradition s'est développée, que les chapelles se sont ouvertes, que les prêtres ont réagi, qu'il y eut des vocations. Alors, devant cette lâcheté, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, cette lâcheté des prêtres, que devez-vous faire? Tout d'abord, un petit mot d'explication sur cette lâcheté. Je suis en train de lire un livre sur les sources de la morale. Il est toujours important de nous poser des questions sur... c'est toujours le même problème, la même question. Ce n'est pas un problème, c'est une question. La morale, la conduite de la vie chrétienne, les problèmes de la fraternité Saint-Pédis ne sont qu'une partie des grands problèmes de l'Église. Tout cela n'est pas nouveau. Et il est normal que nous nous posions la question, mais quelque chose n'aurait-il pas failli dans l'enseignement de la morale? Poser la question, c'est y répondre. Et le livre nous expose ce dont nous pouvions nous douter, mais que la morale a été vue essentiellement comme une obligation, alors que l'Évangile nous la montre comme une amitié de l'homme avec Dieu. Et une amitié qui repose sur la joie de l'homme de faire le bien et d'aller au bien, d'aller à Dieu. Il est évident que, pour la plupart des gens, si on leur pose la question du fondement de la loi, de la morale, ils diront la loi. Et si on leur demande ce qu'est la loi, ils répondront « c'est une obligation ». Eh bien non, la loi est une sagesse, et je vous ai déjà fait un sermon sur ce sujet, elle transmet un idéal plus que de transmettre des obligations. Il y a bien des obligations, mais elles sont les conséquences de l'amitié, elles sont les conséquences de l'idéal. L'amitié peut engendrer des obligations, tandis que les obligations n'engendrent pas d'amitié. Et alors, cela fait peut-être quelques siècles que on enseigne dans l'Église plus une morale d'obligation que d'amitié. Et alors la conséquence, nous dit le livre, elle est évidente, mais si je cite le livre, c'est pour donner un argument d'autorité. La conséquence, c'est la perte du sens du courage. Et c'est ce qui explique, je pense, la situation présente. parce que le courage n'est pas strictement objet d'obligation. Il est pourtant une des vertus cardinales, la force, force, courage, c'est la même vertu, il est une des vertus cardinales, car c'est lui qui fait passer l'idéal dans la pratique. Et c'est pourquoi il est une vertu cardinale qui passe avant la vertu de tempérance, parce que l'enthousiasme passe avant le fait de se réfréner. Et on commence par l'enthousiasme, et puis après ça, on le guide. On commence pas par se réfréner, puis après ça, mettre quand même un peu d'enthousiasme. Et le courage qui est essentiel, qui est, j'allais dire, la caractéristique des hommes bien-nés, des hommes d'honneur, qui vont jusqu'au bout de leurs engagements, pas de leurs engagements, excusez-moi, qui vont jusqu'au bout de leur amitié, qui vont jusqu'au bout de leur enthousiasme. Ce courage, vous voyez, si on ne parle que d'obligation, alors on fait un catalogue et il n'y a plus de place pour le courage dans ce catalogue d'obligations. On fait ceci ou on ne le fait pas. Il n'est plus question d'intensité de l'amour dans l'acte posé, il est question uniquement de réaliser ou de ne pas réaliser un acte obligatoire. Monseigneur Lefebvre a réagi contre cette morale de l'obligation et c'est pourquoi il nous a tant et tant prêché un enthousiasme très élevé pour la Sainte Trinité à travers Jésus-Christ. Sa double prédication sur Jésus-Christ et sur l'enthousiasme de la croix, puisque pour lui, la croix est un acte d'amour et même la loi, disait-il, est un acte d'amour. Il a demandé aux sœurs de la fraternité Saint-Pédis, qui sont responsables du catéchisme par correspondance, de faire une année entière, non pas sur les commandements, mais sur les vertus, c'est-à-dire sur l'amitié avec Dieu et les conséquences de cette amitié. Monseigneur Lefebvre a réagi. Mais il ne pouvait pas tout réformer et beaucoup de prêtres sont restés sur les rails de la morale d'obligation. Beaucoup de prêtres n'ont certainement pas osé faire découler dans la conduite des fidèles les splendeurs de l'amitié qu'ils sont supposés méditer et contempler le matin dans leur oraison et dans leur bréviaire. Parce que si je vous ai donné cette longue explication, c'est parce que je sais bien que des événements comme ceux qui se produisent actuellement ont de quoi surprendre, dérouter et vous déstabiliseraient si l'on ne revenait pas au fondement de la vie chrétienne. Eh bien, l'explication est simple, ces fondements ont été faussés et par conséquent, la conduite de la vie a été faussée. Et les prêtres qui, parce qu'ils ont la foi, une foi profonde, même peut-on dire, ont réagi et ont publié cette lettre, malgré tout, n'ont pas reçu, n'ont pas, peu importe quelle est la cause, mais n'ont pas ce courage suffisant pour aller jusqu'au bout. Alors, mes bien chers frères, puisque les prêtres ne l'ont pas, c'est vous qui allez l'avoir. C'est à vous de réagir. Je sais bien que je m'adresse aujourd'hui à travers ce site internet à ceux qui ont déjà compris, mais j'espère bien, mes bien chers frères, que vous transmettrez autour de vous la bonne parole et que vous aiderez vos amis ou vos anciens amis à réagir comme vous-même l'avez fait. Puisque, qu'aurait-il fallu? C'est que les fidèles de Saint-Nicolas empêchent l'abbé de la Rogue de partir, en disant « Vous êtes notre pasteur, vous n'avez pas le droit de fuir comme un mercenaire. » Je sais bien que l'abbé de la Rogue est faible, mais justement, cela lui aurait probablement rendu le sens de son devoir de pasteur. Ses fidèles ont manifesté leur désapprobation lorsque l'abbé Bouchacourt, dimanche dernier, est venu justifier les mesures qu'on lui a fait prendre contre l'abbé, et qu'il a prises contre l'abbé de la Roque. Ses fidèles ont manifesté, mais ils n'ont pas osé se priver de la messe ce jour-là, et ils sont revenus tout petits, en catimini, pour avoir quand même la suite de leur messe. La messe de gens qui trahissent. Certains même sont revenus à la messe du soir pour avoir une messe complète, et le soir ils ont encore entendu l'abbé Bouchacourt, mais cette fois-ci ils n'ont pas manifesté. Alors, notre fidélité à Dieu est plus importante que les sacrements. Parce que les sacrements ont pour but la fidélité et non pas la fidélité pour but les sacrements. C'est la morale d'amitié. J'y reviendrai, mes bien chers frères. Il est temps que je raccourcisse ce sermon, mais vous vous rendez bien compte qu'il est exceptionnel. Et il faut donc que j'aille jusqu'au bout. Si la morale d'amitié est vraie pour vous, et elle l'est, parce que c'est la morale de tous les chrétiens, alors ne vous contentez pas de votre devoir, ne regardez pas « dois-je réagir, ne dois-je pas réagir ?» parce que si l'on voit les choses ainsi, alors on conclut assez facilement « c'est le devoir des prêtres, ce n'est pas le devoir des laïcs ». Alors il y a une répartition dans le peuple chrétien entre ceux qui ont le devoir de commander et ceux qui ont le devoir d'obéir. Eh bien non, mes bien chers frères, il y a un enthousiasme partagé, il y a un enthousiasme qui est fait partager par les prêtres, un enthousiasme qui est reçu par les fidèles, mais c'est le même enthousiasme. Et si vos pasteurs actuels ne vous font pas partager cet enthousiasme, vous savez bien que moi je vous le fais partager, et surtout Monseigneur Lefebvre, et plus encore l'Évangile. Lisez la vie de Jésus-Christ, par exemple, par le Père Berthe. Jésus-Christ, sa vie, sa passion, son triomphe, et vous verrez ce qu'est l'enthousiasme de la vie chrétienne. Alors, si des pasteurs ne le communiquent pas, à vous de réveiller cet enthousiasme. Et c'est à vous de prendre Saint-Nicolas du Chardonnay, d'y monter la garde, d'y inviter Monseigneur Faure, d'y inviter les bons prêtres fidèles de l'Union sacerdotale Marcel Lefebvre. Et c'est à vous de ne pas permettre que 40 ans après avoir été libéré du modernisme, cette Église y revienne. Et si, malheureusement, l'Église de Saint-Nicolas du Chardonnay vous échappe, si la force publique ne vous permet pas d'y demeurer, alors vous ferez comme vos pères et vos grands-pères, vous quitterez les églises pour rejoindre des garages. J'ai été moi-même ordonné prêtre dans un ancien poulailler. Et pourquoi ce qui paraissait normal à l'époque ne le serait-il plus aujourd'hui? Si le bon Dieu, si la Providence permet que les circonstances rendent difficile la vie, que les circonstances changent, c'est pour nous obliger à plus d'enthousiasme et non pas pour nous déstabiliser. Alors, demandons à la Très Sainte Vierge cet enthousiasme qui dépasse la simple obligation. Je terminerai par une petite histoire, parce que parallèlement au livre sur la morale catholique, je suis en train de lire l'histoire des Cristeros du Mexique. Vous vous doutez bien quelle en est la raison, nous sommes dans la même situation. Il est terrible de voir que le principal obstacle à l'action des Cristeros fut le clergé. Les Cristeros ne furent pas soutenus par le clergé. Et alors, une mère de famille, dans cette guerre qui est une croisade, appelle son fils puiné, le second, et lui dit « Ton frère est mort à la guerre, va le remplacer. » À la fin de la croisade, elle dit « Le bon Dieu a été un peu court. Je lui avais offert mes 4 enfants, il n'en a pris que 2. » Le courage dont je vous parlais, saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il a sa plus belle forme dans le martyre. Celui qui n'est pas prêt à perdre sa vie pour la cause de Dieu, et même pour d'autres causes, est assuré de la défaite. Celui qui a peur est perdu. Il y a des causes qui, dès le début, méritent d'être défendues au prix de la vie, même si, finalement, Dieu ne demande pas qu'on donne sa vie. Mais si, dès le début, on refuse d'aller jusqu'au bout de la défense de la cause au cas où la Providence le demande, si on refuse d'aller jusqu'au bout, alors dès le début, on met des limites, et dès le début, on est perdu, et dès le début, on est un lâche. Demandons à la Très Sainte Vierge de nous donner ce courage du martyr, elle qui a encouragé notre Seigneur Jésus-Christ à souffrir sur la croix, à mourir sur la croix, et elle qui nous dit « Viens avec moi » au pied de la croix, et écoute ce que mon fils a dit. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il vienne à ma suite. Vive le Christ roi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.